Bonjour à chacune et chacun. Soyez toutes et tous les bienvenus. Vous qui êtes ici peut-être pour la première fois, ou parce que vous connaissez cet endroit et les personnes qui s'y réunissent dimanche après dimanche. Soyez les bienvenus derrière vos écrans, celles et ceux qui nous rejoignent en streaming. Quel que soit votre âge, ou qui vous êtes, avec tout ce que vous portez en vous, vos joies, vos douleurs ou vos chagrins, vos questionnements, vos hésitations, vos confiances ou vos révoltes, vos forces et vos vulnérabilités, avec tout cela, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, 1er mars, et donc premier dimanche du mois, nous allons vivre notre culte autour du thème annuel de la reconnaissance. J'aime bien ce thème et j'aime bien ce mot. Comme tant d'autres mots en français, il est porteur de plusieurs sens. J'aime bien ces mots à plusieurs sens. Il y a la reconnaissance dans le sens de gratitude et il y a la reconnaissance de quelqu'un ou quelque chose qui est identifié, attesté. Parfois, la gratitude vient toute seule, comme un élan. Elle remplit notre cœur, notre journée ou un moment particulier. Parfois, suivant qui on est ou ce que l'on vit, la gratitude est loin d'aller de soi. Elle est difficile à ressentir, difficile à exprimer. Il me semble alors que la reconnaissance qui identifie, qui regarde, observe, porte son attention vers ce qui est moins évident, peut nous aider à trouver des chemins vers la gratitude, aussi timide soit-elle. Pour ce temps de culte, je vous invite à cela. Écoutez, regardez, identifiez, reconnaître. Je vous invite à prier et je vais lire une prière tirée d'un livre de Pierre-Yves Tsvalen. Refuge. Père, tu es pour moi un refuge. Quand survient l'épreuve, quand la tempête mugit sur ma vie, je me blottis en toi. Tu m'offres un endroit sûr où me réfugier et me reposer. Tu connais mes tourments, mes doutes et mes contradictions. Tu sais les combats qui agitent mon âme. Tu les connais et tu les acceptes. Tu ne me fais pas le reproche de mon manque de foi. Tu ne t'étonnes pas de mon absence de vision. Tu ne critiques pas la faiblesse de mes choix. Tu me prends avec toi et tu me fais monter sur le rocher trop élevé pour moi. Tu me mets en lieu sûr, tu me parles de toi, tu ouvres mes yeux à la contemplation de ta gloire, et alors je sais que tout est bien. Amen.
Bonjour à tous, je vous invite à vous lever si vous le pouvez. On aimerait commencer à... par chanter à Dieu. Les enfants, j'espère que vous êtes prêts à danser. Et les adultes aussi. On aimerait chanter que Dieu est notre Dieu sauveur, qu'il est venu il y a 2000 ans pour donner sa vie, pour payer pour tous nos péchés. Et on aimerait le chanter avec une énergie qu'on n'a normalement pas le dimanche matin après le réveil, mais avec une énergie quand même. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. On en voit uni à celle des anges, déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ô ton peuple, uni à tous les anges, déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. On nous voit, on nous voit, unique à celle des anges, déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ô ton peuple, ton peuple, uni à tous les anges, déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu sauveur. Chantons que nous sommes à lui. Oh, je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Encore une fois. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. On en voit uni à celle des anges, déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Uni à tous les anges, déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Oh, nos voix unis à celles des anges, déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges, déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Amen. Seigneur, tu es infiniment grand, tu es éternel, tu es puissant. Tu es venu pour nous sauver, Seigneur. On aimerait te chanter. De chanter Alléluia, gloire à toi Seigneur. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as, les océans, les mers, tout me révèle majesté. Alors mon âme s'écrie de tout mon cœur, je veux chanter. Tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, majestueux. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Chantons Alléluia. Encore une fois, Alléluia. Tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Nous aimerions lui chanter notre confiance parce qu'il est venu sur terre, parce qu'il a pleuré, parce qu'il a souffert. Nous avons confiance en lui. Parce que tu es venu sur terre, parce que tu as pleuré, souffert, parce qu'aujourd'hui tu es mon frère, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Parce que tu comprends bien mes peurs, parce que tu connais bien mon cœur, alors simplement je dis Seigneur, J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Parce que tu as donné ta vie. Pour qu'un jour je voie Dieu moi aussi. À cause de ton amour infini. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Puisque maintenant tu es vivant. Puisque maintenant tu es puissant. Parce que tu me dis ne crains pas. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi.
Merci pour ces chants, pour ce moment de louange. Les enfants, c'était un plaisir de vous avoir parmi nous ce matin un petit moment. Maintenant, c'est votre tour d'aller dans vos groupes. Les potes et les ados du cathet qui vont rejoindre les groupes avec Zena, Kevin et Rebecca. J'aimerais prier pour vous. Je te remercie, Seigneur, pour les enfants, pour les ados, les jeunes. Merci parce qu'ils sont une force de vie. Merci pour ton amour pour eux. Parce que ton amour, ton cœur pour eux est immensément grand. Merci pour la tendresse que tu as pour eux. Merci parce que tu veux les guider, les accompagner, les aider à grandir dans la connaissance et une relation avec toi. Je te demande de les accompagner ce matin, d'accompagner les adultes qui seront avec eux et qu'ils puissent vivre un bon moment tous ensemble et avec toi. Amen. Voilà, vous pouvez y aller. Ce matin, on a le plaisir de pouvoir écouter un témoignage sur ce thème de la reconnaissance. Et du coup, Daniel, je te donne la parole.
Merci, bonjour à tous. Je vais commencer par un texte dans le psaume 142. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plante devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, tu connais mon sentier. Alors, c'est un témoignage assez curieux de reconnaissance. Mais je veux vous expliquer le contexte. Donc, ma femme et moi, nous voulions partager et dire notre reconnaissance au Seigneur d'abord et aussi à la communauté ensuite. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie ? Vous savez, je pense, beaucoup savent en tout cas que nous avons perdu un enfant, un fils. Après des mois de grande fatigue, il disait toujours « Je suis au bout de ma vie ». Et on ne savait pas ce qu'il avait au début. Et finalement, un matin, il m'a appelé du travail et m'a dit « Il faut que tu viennes me chercher parce que je ne suis pas bien. Mon employeur demande que j'aille faire un test. » Alors, il avait déjà été chez des médecins, 4 médecins qui l'ont vu avant, mais personne n'a trouvé ce qu'il y avait, pas de diagnostic. Alors, moi, je l'ai amené à la tour et arrivé à la tour, on a vu qu'il avait une tumeur cérébrale au grade 4, donc c'est le maximum. Ensuite, on l'a amené au HUG et après 3 mois d'hôpital, c'était la fin. Donc, on l'a accompagné, il a traversé 2 opérations, de la radiothérapie, de la chimiothérapie. Et il a passé quand même quelques week-ends chez nous. Ils ont autorisé à le prendre. Et puis, c'était la fin au mois de janvier 2024. Alors, beaucoup d'adversité. C'est vrai que c'était très difficile pour nous de l'accompagner. En plus, au moment où son frère jumeau, qui est au Canada, est venu, nous avons attrapé le Covid, donc on n'a pas pu accueillir le frère. Ensuite, il y a eu la grippe. Donc, c'était vraiment très difficile pour nous. On a eu ennui sur ennui. Un petit détail aussi, donc mon fils Pascal, qui est décédé, avait un catamaran. Et au même moment de ces difficultés, la police nous a appelés, nous a dit: qu'est-ce que c'est que ce catamaran qui traîne au bord de la route, alors qu'il était garé sur une place acceptée par la police. Donc on a dû déménager en catastrophe ce catamaran et lui trouver une place. Et voilà, enfin, ennui sur ennui. Alors pourquoi dire un merci alors qu'on a eu un grand silence de Dieu? On a l'impression qu'on était seul, abandonné. Mais on a une formidable réponse au travers de vous, il faut le dire, des amis de mon fils, de ses collègues de travail, de nos voisins, de ses amis en Europe, au Canada. Des centaines de personnes ont prié pour lui. Et voilà, le 29 janvier 2024, après 3 semaines de soins palliatifs, il s'est éteint. Les soins palliatifs ont été une épreuve encore plus difficile pour nous, parce qu'en fait, il devait décéder en quelques jours et il a tenu 3 semaines parce qu'il avait une santé de fer au départ. Donc on a eu 3 semaines où il a été privé d'eau, privé de boisson, privé de nourriture, privé de tout. Et il était là en train de mourir. Alors, si on conclut, pourquoi dire merci? Alors, on n'a pas eu de réponse directe et immédiate de Dieu pour une guérison, pas cette fois en tout cas, mais on a eu des repas, des visites, des petits coups de sonnette, on trouvait à manger chaud devant notre porte d'entrée. On a eu des gens qui nous ont appelés parmi vous. D'ailleurs aussi, des messages WhatsApp, des emails et plein de signes de compréhension, de soutien, etc. Alors, des amis fidèles qui nous ont appelés jour et nuit, des gens qu'on pouvait appeler aussi, ses collègues aussi. Ses collègues ont organisé une participation au marathon. Il y a d'ailleurs Claudie Parnigoni qui a participé, ma fille. Et on a couru en souvenir de Pascal. C'était quand même chouette d'organiser ça. Et ils ont fait des maillots qu'on portait qui étaient au nom de Pascal. Et on a fait une partie du marathon comme ça. Donc on était très touchés par vos gestes. On n'était pas abandonnés malgré la souffrance. Et vraiment, on était soutenus. Alors j'ai relu il y a ces jours tout le récit de Job, qui est très intéressant, qui montre que dans la souffrance, il n'a pas lâché, il a tenu le coup, il savait que Dieu était là, et même s'il comprenait rien, s'il souffrait terriblement, il a pu traverser cette période et s'en sortir. Alors la guérison, oui, ça existe. Dans notre communauté, ça existe. Le Seigneur intervient dans certains cas, pas dans notre cas pour notre fils. Mais voilà, le Seigneur est roi, le Seigneur nous a accompagnés, on n'a pas été abandonnés du Seigneur du tout. Et ça, on peut vraiment se réjouir en Jésus-Christ. Amen.
Merci beaucoup, Daniel. Merci, Daniel, pour ce témoignage. Ben ouais, la reconnaissance, ce n'est pas forcément que pour les choses qui vont très bien. C'est aussi dans l'épreuve que Dieu nous permet de voir des pépites de comment il agit. J'aimerais prier. Seigneur, je te remercie pour le témoignage de Daniel. Et j'aimerais vraiment te demander ta bénédiction sur lui et sur Christine et sur toute leur famille. Je te remercie pour tous les signes qu'ils ont pu voir de ta présence, même si elle n'était pas une révélation extraordinaire ou absolument fantastique de toi là direct, mais au travers des gestes qui leur ont été adressés, au travers des paroles. Et c'est ça, en fait, ce que tu veux faire dans nos vies, c'est nous inspirer pour être des témoins et des transmetteurs de toi. Alors je les remets vraiment dans ta main de bénédiction et que ta présence pour eux puisse continuer d'être vraiment. Qu'ils puissent vraiment continuer de la sentir. J'aimerais aussi te prier maintenant pour Philippe qui va nous apporter la prédication. Merci pour tout ce qu'il a préparé. Je le remets entre tes mains pour qu'il puisse être rempli de paix et de force dans les paroles qu'il va nous dire. Amen.
Bonjour à chacun, à chacune. Heureux de vous retrouver ce matin. Il m'arrive de faire quelques petits éléments statistiques dans ma vie. Je n'ai pas toutes les compétences scientifiques pour le faire, mais quand même, je tiens des décomptes. Et c'est aujourd'hui, ce matin, en un peu plus de 25 ans de service pastoral, ma 1200e prédication. Non. Ça compte pas les ateliers bibliques, les conférences, les machins, tout ça. 1200. Et pendant longtemps, j'ai pensé que je devais adapter mes sermons, ma prédication, ou les mettre de côté, ce que j'avais préparé, recommencer à zéro, chaque fois qu'un événement majeur se produisait dans le monde. Je pense que la première fois où j'y ai vraiment pensé, c'était au lendemain du 11 septembre 2001. Je me suis dit, je ne peux pas faire ce que j'ai préparé, en fait. C'était le cas aussi le 4 janvier de cette année. Une prédication qui était prête, et puis au lendemain des événements tragiques de Crans-Montana, je me suis dit, bon, faire autre chose. Connaissez un peu cette philosophie qui consiste à prêcher, nous dit-on, la Bible dans une main et le journal dans l'autre. Une question de pertinence culturelle. Puis depuis quelque temps, j'ai plus ou moins intégré que la fonction première de la prédication, du sermon, ce n'est pas de réagir à l'actualité 24 heures sur 24. Mais plutôt de nous aider à reconnaître la manière dont nous sommes façonnés par des pouvoirs autres que Dieu et de nous proposer les outils nécessaires pour nous détacher de ces pouvoirs ou tout du moins pour les remettre en question. Ses pouvoirs. Notre allégeance première comme chrétien, notre allégeance première, elle n'est pas à la nation, qu'elle soit suisse, française, états-unienne, iranienne, israélienne. Notre allégeance première ne va pas à une nation. Elle ne va pas non plus à un parti politique ou un autre. Notre allégeance première, elle est à Dieu. Puis c'est compliqué. Parce qu'on vit une période où l'on nous demande presque quotidiennement de renoncer à cette allégeance à Dieu. Parfois, l'empire exige que nous oublions que chaque personne est créée à l'image de Dieu et digne de respect. Parfois, l'empire exige que nous négligions notre vocation à être des artisans de paix. Le Seigneur Jésus a dit que celui qui vit par l'épée mourra par l'épée. L'empire exige que nous renoncions à nos obligations envers nos prochains et nos prochaines, qui sont tous et toutes dignes d'honneur. L'empire exige que nous adorions un parti ou une idée politique et que nous en fassions notre allégeance première. Alors je crois, mes amis, que chaque semaine, Le sermon doit ramener les gens que nous sommes à l'essence même de ce que signifie être un ou une disciple du Christ. Nous pouvons le faire de différentes manières, en abordant différents sujets, y compris des sujets d'actualité parfois. Mais en fin de compte, la question à laquelle le sermon doit répondre est la suivante. À quoi ressemble la vie d'un disciple, d'une disciple de Jésus dans le monde complexe dans lequel nous vivons? Où est-ce que Dieu nous attend? Il nous veut où, le Seigneur, ce matin? Je vous propose la lecture de deux textes bibliques. Nous aurons, Dieu voulant, un petit moment avec Slido tout à l'heure. Donc Slido, pour vous qui nous rejoignez ce matin, c'est une application, vous n'avez pas besoin de l'installer, vous pouvez juste la consulter en ligne. Et en renseignant ce numéro, 376-27-24, vous pouvez, si vous le voulez, poser des questions sur la prédication de ce matin. Et puis on prendra un petit moment, s'il y a des questions, pour essayer d'y répondre. Je vous invite à la lecture de deux textes bibliques et je vais juste retrouver ma présentation. Ça, j'y suis, hein. T'inquiète pas, Roxane. Deux textes bibliques. Le premier dans l'Ancien Testament et le second dans le Nouveau Testament. Le premier dans l'Ancien Testament, un peu long, mais des fois c'est bien de lire la Bible. Enfin, c'est toujours bien de lire la Bible. Lévitique 14, 1 à 20. Le Seigneur dit à Moïse, voici comment se déroule la cérémonie de purification d'un lépreux. Lorsqu'on le présente au prêtre, celui-ci sort du camp pour l'examiner. S'il est guéri de sa lèpre, le prêtre ordonne qu'on apporte pour lui deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, de la laine de couleur écarlate et une branche d'hysope. Il fait égorger l'un des oiseaux au-dessus d'un récipient en terre contenant de l'eau de source. Il prend l'autre oiseau et le plonge avec le bois de cèdre, la laine écarlate et la branche d'hysope dans le sang de l'oiseau qu'on a égorgé. Il fait alors 7 aspersions sur celui qui se purifie de la lèpre. Il le déclare pur, puis il laisse l'oiseau vivant s'envoler vers la pleine campagne. Celui qui se purifie lave ses vêtements, rase tous ses poils et se lave avec de l'eau, alors il est pur. Il regagne le camp mais demeure hors de sa tente pendant une semaine. Le 7e jour, il rase de nouveau ses cheveux, sa barbe, ses sourcils et tous ses autres poils. Puis il lave ses vêtements et se lave dans l'eau, alors il est purifié. Le 8e jour, il prend 2 agneaux sans défaut, une brebis d'un an sans défaut, une offrande de 9 kilos de farine pétrie avec de l'huile et un demi-litre d'huile. Le prêtre qui préside la cérémonie place l'homme avec ses présents devant le Seigneur à l'entrée de la tente de la rencontre. Il prend celui des agneaux qui est destiné à un sacrifice de réparation, de même que le demi-litre d'huile, et il les présente au Seigneur avec le geste rituel. Il égorge l'agneau à l'endroit où l'on égorge un animal, offert un sacrifice pour obtenir le pardon, ou un sacrifice complet, c'est-à-dire dans un endroit réservé. En effet, le sacrifice de réparation, comme le sacrifice pour obtenir le pardon, est une offrande strictement réservée et qui revient au prêtre. Le prêtre prend du sang de l'animal et en dépose sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, ainsi que sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Il prend l'huile et en verse dans sa main gauche, il y trempe son index droit et fait 7 aspersions devant le Seigneur. Puis, il en dépose un peu sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, ainsi que sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, là où il a déjà déposé du sang du sacrifice de réparation. Il verse l'huile qui reste dans sa main sur la tête de celui qui se purifie et effectue sur lui le geste rituel de la purification devant le Seigneur. Le prêtre offre le sacrifice pour obtenir le pardon. Et il effectue de nouveau sur la personne le geste qui la libère de son impureté. Après quoi, il égorge l'animal destiné au sacrifice complet et le brûle en entier sur l'autel avec l'offrande de farine. Alors, une dernière fois, il effectue sur la personne qui se purifie le geste rituel qui la rend pure. Et un deuxième texte dans le Nouveau Testament. Luc 17, 11 à 19. Tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa le long de la frontière qui sépare la Samarie et la Galilée. Il entrait dans un village quand 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à crier « Jésus, maître, prends pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit « Allez vous faire examiner par les prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés de leur lèpre. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or cet homme était un Samaritain. Jésus dit alors, « Est-ce que les 10 n'ont pas été guéris ? Où sont les 9 autres ? Il ne s'est trouvé personne pour revenir remercier Dieu, sinon cet étranger ?» Puis Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Je ne suis pas encore tout à fait gâteux. Je me souviens donc que nous avons déjà évoqué le texte de l'évangile de Luc lors de notre premier culte de reconnaissance. C'était le 4 février dernier. Je m'en souviens. Ça fait partie de mes éléments statistiques, vous allez me dire. Je note les références sur lesquelles j'ai déjà prêché. Et paf, ça revient. Mille excuses. Mais il faut que je vous dise que j'étais pas tout à fait arrivé au bout de la réflexion. Et vous y êtes pour quelque chose. Parce que vous m'avez suggéré, ici ou là, une ou l'autre idée, piste de réflexion qui m'ont conduit, invité à reprendre la méditation de ce texte, à l'amplifier, pour nous proposer ce matin un parcours de la reconnaissance. Jésus voit donc 10 hommes qui implorent sa pitié. Ces 10 hommes sont connus pour être des lépreux. Beaucoup de lecteurs et de commentateurs de ce passage biblique s'alignent pour dire que Jésus les a guéris de leur lèpre. Mais le texte biblique dit autre chose. Jésus ne les touche pas. Il ne leur dit pas de boire ou de manger quoi que ce soit. Il leur dit juste d'aller se montrer au prêtre, dont nous avons lu les détails de l'office en pareille circonstance. Ce n'était pas simple, la cérémonie de purification. Et là, ils étaient 10. Le texte biblique dit que Jésus, quand il voit ces hommes, il leur suggère d'aller rencontrer les prêtres et que en chemin, ils seront purifiés. Le texte biblique ne dit pas que Jésus les guérit. Le texte biblique dit que Jésus, en les voyant, suggère à ces hommes d'aller faire constater leur guérison déjà acquise par les prêtres. Et il leur dit donc de faire comme dans la loi de Moïse. Au verset 14, le texte nous apprend alors que les 10 individus sont purifiés. Purifiés. Pas guéris. Purifiés. dans la perspective biblique, comme cela est expliqué dans le livre du Lévitique, chapitre 14, que nous avons lu, quand on était guéri de la lèpre, il fallait encore en être purifié. Et pour cela, il fallait accomplir des rites compliqués auprès des prêtres. Ces rites permettaient à l'ancien malade, purifié, de retrouver sa place au sein du peuple, au sein de la communauté dont il avait été exclu pour éviter la propagation de la lèpre. Et selon le livre du Lévitique, au chapitre 14, ces rites permettaient alors de libérer l'ancien lépreux de sa culpabilité. Le libérer de sa culpabilité. Peut-être parce que lorsque l'on est malade, souvent un tel sentiment de culpabilité vient se mêler. Un sentiment qui nous fait penser que si l'on est malade, c'est qu'on y est pour quelque chose. Avec un sentiment lancinant de culpabilité qui vient aggraver encore la situation. Et Jésus, lui, voit des hommes guéris. Des hommes qui ne souffrent plus de la lèpre. Des hommes qui, mis au banc de la société, doivent être réintégrés dans la communauté. Ça, c'est ce que Jésus voit. Et jusqu'à la rencontre de Jésus, aucun de ces 10 hommes ne s'était rendu compte qu'il était déjà guéri. Jusqu'à la rencontre de Jésus, personne d'autre ne leur a dit qu'ils n'étaient plus des lépreux. Ces 10 hommes étaient guéris, mais ils l'ignoraient. Ces 10 hommes n'étaient plus lépreux, mais personne ne le leur avait dit. Ils s'étaient habitués à leur état. Tout le monde s'était habitué à ce que ce soit des lépreux. Rien que des lépreux. Que des lépreux. Et à jamais des lépreux. Vous savez, l'essentialisation. Quand on essentialise les gens à quelque chose qui pourtant ne les définit pas. En leur disant d'aller se montrer aux prêtres, Jésus les met en route sur la piste de la guérison complète. Il les fait sortir du stéréotype dans lequel ces gens étaient enfermés et il les envoie auprès du sacrificateur pour que l'ensemble de la société reconnaisse leur nouvel état. Purifié, guéri, rétabli. Souvent, les commentateurs de ce passage biblique parle de Jésus comme d'une sorte de magicien qui guérit miraculeusement. Mais s'il est une guérison que Jésus accomplit ici, c'est la guérison de l'identité de l'homme blessé, de l'être humain blessé. C'est la guérison d'une entaille profonde faite entre cet homme, cette femme et le reste du peuple. La guérison de l'identité. En recommandant de se montrer au prêtre, puis plus tard en relevant, c'est-à-dire en ressuscitant cet homme qui s'est jeté à ses pieds, en glorifiant Dieu et en lui disant alors, va ta route, relève-toi, vas-y, lance-toi, fais-le. Jésus ramène cet homme à la vie, littéralement. Il le ramène à la vie. Je sais que c'est difficile à considérer pour nous autres en Suisse, qui ne savons plus très bien ce qu'est être lépreux dans le contexte de la Palestine du 1er siècle. Je sais que c'est dur à imaginer. Mais je crois que cela reviendrait pour nous à entendre aujourd'hui quelque chose comme tu es le bienvenu parmi nous. Toi qui es exclu, ou pire, toi qui es considéré comme un être susceptible de porter atteinte à ma vie en la contaminant, oui, toi, tu as ta place. Tu es l'un des nôtres. Nous sommes frères et sœurs, toi et moi. Toi qui te tiens là-bas, toi qui es loin, toi qui fais appel à nous, toi qui cries à Dieu, tu es l'un des nôtres. Bienvenue. Il y a zéro mépris dans le regard du Christ, mais il y a la reconnaissance d'une égale dignité, noblesse, valeur entre tous les hommes et toutes les femmes. Ce sentiment, ce regard, pardon, du Christ, c'est un regard qui est plein d'humilité. Et il tranche avec le sentiment de supériorité dont nous sommes coutumiers. Le regard du Christ ne s'arrête pas à la surface des choses, aux idées reçues, aux stéréotypes qui collent à la peau. L'attitude du Christ nous invite à découvrir la véritable identité des personnes que nous croisons et à reconnaître en elles cette dignité inaltérable qui s'enracine en Dieu. Ce regard du Christ pénétrant, il abolit les distances que nous estimons trop souvent et trop rapidement infranchissables. Et il nous permet de dire à celui, celle qui se tient en face de nous, je te reconnais comme un autre semblable. Je te reconnais comme un frère, comme une sœur, égal en valeur, en dignité, en noblesse. Ici donc, dans un parcours de reconnaissance, la reconnaissance est une identification. Il s'agit de rendre à quelqu'un l'identité qu'il avait perdue jusqu'à là. Rendre à quelqu'un l'identité qu'il avait perdue jusque-là. Et c'est en chemin, comme bien souvent dans la Bible, ça vaut le coup de faire de la randonnée, hein ? C'est en chemin que se joue le deuxième acte de la scène. Dans le cas présent, un des 10 ouvre suffisamment les yeux pour découvrir qu'il n'est plus le même. Il est guéri, purifié, ch'touk, tac. Guéri. Dans les faits, il a été purifié, mais ce qu'il voit, lui, c'est qu'il a été guéri. Kif, kif, bourricot. Parmi les 10 lépreux, un Samaritain, homme de mauvaise réputation, pour les religieux de l'époque, un homme mis au banc de la société israélite. Et lui réfléchit un peu plus que les autres et réalise qu'il faut aller se montrer au prêtre. C'est donc que leur lèpre a disparu. Le texte de Lévitique 14 est très clair. On va se montrer au prêtre quand la lèpre a disparu. Et c'est ce qu'il constate en ouvrant les yeux. Il voit qu'il est guéri. Il n'y a plus. Quelle joie. Vous imaginez la joie de cet homme à ce moment précis. Et voilà pourquoi il accourt auprès de Jésus, pour le remercier. Il y a un mot ici dans le grec de la Bible qui est utilisé. C'est le mot « eucharistos » qui a donné en français « eucharistie » qui veut dire « action de grâce ». L'eucharistie, c'est l'action de grâce. Et c'est ma deuxième et dernière idée là autour. C'est la reconnaissance comme une action de grâce. Cet homme accourt donc pour remercier Jésus de lui avoir révélé qu'il n'était plus un pestiféré, qu'il allait à nouveau avoir sa place parmi les hommes, qu'il n'avait plus à se tenir à distance de tout le monde, mais qu'il pouvait reprendre sa route, recomposer son histoire, se réinvestir dans la vie. Les 9 autres, eux, n'ont pas compris l'aide que Jésus leur avait apportée. Et donc, ils ne montrent aucune reconnaissance. Ils n'ont pas compris, donc ils ne sont pas reconnaissants. Ils ne se sont pas aperçus que Jésus les avait effectivement aidés. Probablement parce que l'aide apportée par Jésus n'était pas une aide d'ordre matériel. Parce que Jésus ici, il ne fait rien d'autre que leur parler. Ce qui semble insignifiant, n'est-ce pas ? Comme si une parole pouvait guérir. Comme si quelques mots attentionnés pouvaient faire du bien, soigner, restaurer, guérir. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Quelques mots en chemin, comme ça, de loin. Et bien sûr que la parole peut soigner. Bien sûr que la parole peut guérir. Bien sûr qu'elle peut purifier. Bien sûr qu'elle peut relancer aussi. C'est tout le travail de la parole de Dieu, de la parole du Christ, de nous guérir, de nous restaurer, de nous soigner, de nous relancer. Et c'est notre travail à nous aussi d'avoir entre nous des paroles qui peuvent guérir, soigner, relancer. Une parole qui fait du bien. Maintenant, chers frères et sœurs, qui ne s'est jamais retrouvé dans la situation de rendre service et de n'être pas remercié pour service rendu ? Qui a jamais connu ça ? Ou à contrario, qui ne s'est jamais retrouvé dans la situation d'être aidé et d'oublier de remercier celui ou celle qui a donné le coup de main. C'est à croire que tant que le monde sera monde, il y aura toujours une forme de négligence à ce sujet, la reconnaissance. Pour certains, c'est dire merci qui est dur, parce qu'on accepte difficilement d'être aidé. On accepte difficilement d'avoir besoin de quelqu'un d'autre. On accepte difficilement de reconnaître qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Pour d'autres, dire merci, ça ne va pas de soi car on ne se rend même pas compte qu'on a été aidé. On ne voit même pas qu'on a reçu de l'aide, que quelqu'un est intervenu pour nous assister ou nous soutenir ou nous téléphoner jour et nuit s'il le faut. L'autre est comme invisible. Et ce qu'il fait n'est pas repéré, n'est pas reconnu. C'est pour ça que le témoignage de Daniel et Christine, il me touche. C'est parce qu'ils ont su repérer ce qui les a aidés. Ceux dont la profession a un rapport avec la relation d'aide, les ressources humaines, l'entraide en général, savent à quel point il y a du déchet en matière de remerciement. Et même quand on a été directement sollicité, il n'est pas rare que la personne qui a été aidée ne prenne pas la peine de remercier. C'est pas rare. Aider 10 personnes, et dans la réalité, vous pouvez vraiment vous estimer heureux si une d'elles vous remercie. L'action de grâce du Samaritain guéri, sa reconnaissance est exceptionnel, surnaturel. Dans les faits, c'est extrêmement rare, ça. Alors pour autant, faut-il arrêter de rendre service au prétexte qu'il y a beaucoup d'ingratitude parmi les hommes ? Faut-il s'abstenir d'aider au prétexte qu'on reçoit peu de reconnaissance en retour ? Tout dépend de vous, en fait. Si les coups de main que vous donnez sont destinés à recevoir de la reconnaissance en échange, à améliorer votre image de marque ou votre réputation. Si vous vous rendez utile pour qu'on vous soit redevable, alors arrêtez tout de suite, sérieusement, arrêtez tout de suite. Lancez-vous plutôt dans le commerce, vendez votre savoir-faire, louez vos services, et alors vous serez payés en retour pour ce que vous faites. Maintenant, si vous voulez agir juste pour aider, juste pour servir, alors n'attendez rien en retour. N'espérez pas quoi que ce soit en échange. Mais agissez, juste parce que c'est une manière de faire le bien absolu, gratuit, d'amener du beau et du consistant dans ce monde terrible. Amener du beau, du bien et du consistant, gratuitement. Faites ce qu'il faut faire et ne vous souciez pas du reste. Le reste se souciera bien de lui tout seul. Pas plus que Jésus n'a cessé de rendre service après cet épisode fâcheux. Pas plus qu'il n'a cessé d'aller secourir celles et ceux qui avaient besoin d'aide après la goujaterie de ces anciens lépreux désormais purifiés. Comme Jésus, ne cessez pas de faire ce que votre conscience vous recommande de faire. Tant bien même, vous ne seriez pas remercié pour cela. Nous n'avons pas à agir pour obtenir de la reconnaissance, mais pour accomplir le bien absolu, en toutes circonstances. Voilà donc, dans ce passage de l'Évangile selon Luc, les 10 lépreux qui font appel à Jésus, reconnaissent avoir besoin d'une main tendue, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas pouvoir s'en sortir tout seuls. S'ils ne sont pas reconnaissants à la fin de l'épisode, ce ne sera pas faute d'avoir eu conscience qu'ils avaient besoin d'aide. Le Samaritain, lui, a ouvert les yeux. Et il voit dans son nouvel état d'homme guéri et purifié la trace de l'action de Dieu. Parce que ça, c'est ce que fait Dieu. Il guérit, il purifie et il relève. Ça, c'est ce que fait Dieu. Il guérit, purifie et il relève. Il ne guérit pas de toutes les maladies. Le témoignage de Daniel est suffisamment éloquent. Mais il guérit de nos turpitudes intérieures. Il purifie de notre péché misérable. Et il nous relève. Comme Jésus dit à cet homme qui revient le voir, sa foi l'a sauvé. Relève-toi, va. Ta foi t'a sauvé. C'est quoi la foi ici? Je pense que c'est ce qui nous rend sensibles au monde présent comme il est. C'est ce qui nous rend sensibles à notre finitude. La foi, c'est ce qui aiguise notre regard. C'est ce qui nous relie d'une certaine manière au dynamisme créateur de Dieu. C'est ce qui nous connecte à la grâce, à ce qui restaure, à ce qui fait du bien. La foi, c'est ce qui nous met en route. Et vous, votre foi, que vous fait-elle faire? C'est en raison de sa foi que le Samaritain fait demi-tour. Une tchéchouva, une conversion. Il retourne auprès du Christ pour rendre à Dieu ce qui lui appartient, le fait de l'avoir rendu à la vie. Tu m'as redonné la vie, eh ben pour la vie, je vais m'engager pour toi. C'est ce qu'on va vivre dimanche prochain, très concrètement, avec deux baptêmes, dont celui d'Alicia. C'est les mots, Alicia, je ne vais pas aller dans le détail, mais c'est les mots que tu as employés avec moi quand on s'est vu samedi matin, et tu les diras mieux que moi dimanche prochain. Mais c'est ça la foi. C'est ce qui nous rend à la vie. Et ça, le Samaritain guéri, il l'a bien perçu. Et ce matin, et je m'arrête là, cet homme nous invite à ouvrir les yeux sur notre propre existence, afin de reconnaître dans notre vie, parfois bien abîmée, toute l'action de Dieu. Dieu qui nous appelle, Dieu qui nous remet en selle, Dieu qui nous met en liberté, Dieu qui nous met en responsabilité, Dieu qui nous purifie, Dieu qui nous guérit. Et je pense qu'il nous invite aussi, cet homme, à conduire ceux et celles dont il nous rend proche sur le chemin de la reconnaissance, parce que le Christ le vaut bien. Et qu'il nous glisse, le Christ, dans le creux de l'oreille, une reformulation du commandement d'amour de Jésus. Reconnaissons-nous les uns les autres, comme Christ nous reconnaît. Amen.
Merci Philippe. J'aimerais nous inviter à prendre un temps pour mettre ces paroles en acte, en passant à l'offrande et en l'introduisant par ce verset, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce matin, pendant cette offrande, il ne s'agit pas de donner parce qu'on vient d'entendre une super prédication sur la reconnaissance et qu'on se sent coupable et qu'on se dit « je devrais plus donner ». La reconnaissance, elle vient du cœur, de la joie que Dieu nous donne, de cet élan dont Philippe a parlé. Et notre Église, elle vit uniquement de nos dons. On paye les charges du bâtiment, on paye les salaires de l'équipe pastorale, on paye des activités pour l'enfance. Et il est possible de donner donc avec les paniers qu'on va faire passer, mais aussi par Twint, comme vous l'avez vu, et également par ordre permanent par compte bancaire. Je vous invite à prendre ce chant, à vous lever pour le chanter, à jamais tu es saint, et à vraiment nous rendre compte de tout ce que Dieu est pour nous, de tout l'amour qu'il nous donne, et de nous demander qu'est-ce que moi je suis par rapport, qui suis-je pour que Dieu m'aime finalement. Chantons à jamais tu es saint, et que nous voulons lui rendre gloire.
Toutes les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié. Jamais tu es saint.
Vous qui l'a racheté,
vous qui l'a racheté, vous qui l'a pardonné, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, sein, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu t'es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, l'éternité. Jamais tu es saint.
Vous pouvez prendre place. Il n'y a qu'une très bonne question ce matin que je lis. Il arrive parfois qu'une personne ayant bénéficié d'une aide en exige davantage. Comment doit-on réagir face à une telle situation ? Je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour y répondre, parce qu'il y a dans cette salle des gens habitués à la relation d'aide depuis des décennies. Je pense à Bernard Bailly, par exemple. Donc je ne suis pas sûr d'être le mieux placé, mais je peux vous dire un petit peu comment j'ai appris et j'apprends encore à fonctionner là autour. La première chose, c'est que je ne suis le sauveur de personne. D'accord ? Si vous venez me voir et vous êtes toujours les bienvenus, soyez assurés d'une chose, je ne sauve personne. Mais je connais qui le fait. Je connais bien. Et j'ai envie de vous emmener vers lui, qui vous mettra en liberté. Mais moi, je ne sauve personne. Et tant mieux. Une deuxième chose que j'essaye d'intégrer, que je vous invite à intégrer, c'est vos propres limites. On est tous différents. Moi, j'ai un petit peu de réserve ici, puis là, j'en ai pas du tout. Puis vous, ça sera différent. Donc, apprenez à vous connaître, sachez mettre des limites. Faites des choix. J'ai le bonheur d'avoir un excellent médecin de famille, tout près d'ici. Un type comme ça. Il est plein, mais il est comme ça. Et je suis toujours impressionné parce que quand je l'appelle, que j'ai un pépin de santé, un truc comme ça, il me prend dans la journée, sauf s'il est en congé, auquel cas il m'adresse à un collègue. Puis un coup, je lui dis, ouais, mais pourquoi ça ne marche pas comme ça avec ma femme ou mon fils ? Et il m'a dit, moi je suis le médecin d'une bonne partie de ton église locale. Quand je prends soin de toi, je prends soin d'eux. Si tu es disponible, peut-être ils feront moins appel à moi. Je ne suis pas médecin, hein. Mais il l'a formulé et je trouve ça très touchant, c'est définir les priorités. On ne peut pas tout faire. Et on met des limites. Et on dit aux autres, trop c'est trop. Parce que je ne suis pas ton sauveur. Je ne suis pas le sauveur de mes parents. Je ne suis pas le sauveur de mes enfants. Je ne suis pas le sauveur de mes amis. Je ne suis pas votre sauveur, mes frères et sœurs et chers amis. Mais je connais celui qui peut le faire. Et j'ai envie de vous emmener tout près de lui. Ça va ? C'était la seule question. Let's go.
Je vous invite à encore chanter pour introduire le temps de scène, notre Sauveur, celui qui s'est offert sur une croix par amour pour nous. Je vous invite à vous lever si vous le pouvez. On a tant parlé de lui. Étant méprisé aussi, on a voulu l'effacer en lui perçant les deux pieds, provoquer l'humiliation,
le clouant sans raison. On a craché sur celui dont le visage aujourd'hui m'éblouit.
Dans nos chants, ce matin, nous avons proclamé la grandeur de Dieu, sa sainteté. Nous l'avons déclaré le Sauveur, nous lui avons exprimé notre confiance. Nous avons entendu que Dieu se manifeste au travers des gestes pratiques et concrets de ses enfants, nous. Nous avons entendu parler de reconnaissance, de gratitude, d'action de grâce. Nous avons vu que reconnaître, c'est attesté. Jésus affirme et restaure l'identité profonde et la dignité, et il relève. Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous, pour l'humanité, pour chacune et chacun de nous. En partageant le repas de la scène, nous avons l'occasion de reconnaître ce que Jésus a fait, tout en lui exprimant notre gratitude pour ce cadeau fantastique, gratuit et plein de sa grâce et de son amour pour nous. Je vous invite en toute liberté et sans condition à partager ce repas comme Jésus l'a fait avec ses disciples. Et je lis dans Matthieu 26, le verset 26 et suivant. Pendant le repas, Jésus prend du pain. Il dit la prière de bénédiction, il partage le pain et le donne à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prend une coupe de vin. Il remercie Dieu et il donne la coupe à ses disciples en disant « Buvez-en tous. Oui, ceci est mon sang. » Le sang de l'Alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. J'aimerais te remercier tellement du fond du cœur, Jésus, pour ce que tu as fait pour nous. On a tellement de peine à réaliser ce que tu as fait, et pourtant tu l'as fait pour chacun de nous. Alors aide-nous à recevoir ce cadeau en pensant que c'est pour nous que tu l'as fait et pour nous permettre aussi de le faire à d'autres en distribuant ton amour autour de nous. Amen. Merci. Pour les personnes qui désirent boire avec la coupe, vous pouvez faire signe à Philippe. Et pendant ce moment, on va le prendre en toute tranquillité, le repas de la scène. Mais si quelques-uns d'entre vous ont envie d'exprimer à haute voix une prière, sentez-vous libre.
Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. On continue dans le thème de la reconnaissance avec trois personnes qui vont prendre la parole. Vous pouvez déjà vous approcher. Peter, tu peux aussi t'approcher. Tout d'abord, Rebecca. Il y a 2 semaines, il y a eu une vente de petits pains. Ceux qui étaient là s'en souviennent. C'est parti très, très vite, un peu trop vite pour certains. Oui, il y aura des photos. Et puis, voilà, on est reconnaissant pour votre générosité et Rebecca va vous donner quelques nouvelles de l'Ouganda.
Oui, il y a 2 semaines, avec les potes, on a fait une vente pour des petits pains. On a pu récolter 507 francs de cette matinée. Merci, merci beaucoup. J'ai reçu un petit message de la dame qui est en contact avec Petwa directement. Et j'aimerais juste vous partager son petit texte qu'elle nous a envoyé. Chère Église, chers potes, j'étais tellement heureuse de recevoir l'argent que vous avez récolté pour moi afin que je le donne à cette merveilleuse petite famille en Ouganda. Merci d'avoir vendu ces petits pains pour cette famille. Grâce à votre don, nous avons pu aider à acheter une machine à coudre afin que la maman puisse confectionner des vêtements à vendre. De plus, un menuisier s'est rendu chez eux cette semaine pour déterminer le mobilier dont ils ont besoin. Il fabriquera une table à manger et 6 chaises en bois, une armoire et un tabouret pour que la maman, Petwa, puisse s'asseoir pendant qu'elle apprend à coudre sur sa nouvelle machine. Il restera un peu d'argent pour acheter des casseroles, des poêles, de la vaisselle et des tasses. La famille vous est très reconnaissante et vous remercie du fond de cœur. Je vous enverrai des photos des meubles dès qu'ils seront fabriqués et installés dans la maison. Merci, merci beaucoup et que vous soyez bénis.
Merci. Est-ce que vous avez aimé participer à ce genre d'action très concrète? Oui, en tout cas, il m'a semblé, d'après l'élan qu'il y a eu, que c'était chouette. Donc, on va essayer de remettre ça à l'occasion de temps en temps. Et puis, j'aimerais inviter Peter, un autre sujet de reconnaissance. Il y a des personnes, des familles qui nous rejoignent de temps en temps dans l'église et on est reconnaissant au Seigneur. Et Peter a émis le désir de se présenter. C'est possible de le faire. Si jamais vous êtes nouveau dans l'église, c'est volontiers qu'on vous donne la parole. Merci. Merci.
Bonjour à tous, à toutes. Je m'appelle Peter. Alors, comment vous êtes venu ici aujourd'hui? En voiture, en bus, en tram ou à pied? Mais venir ici n'est pas seulement une action physique. Il faut d'abord en avoir l'idée. C'est la pensée qui fait bouger le corps. Au centre de cette pensée, il y a l'amour de Dieu et Jésus-Christ. Par le sang qu'il a versé sur la croix, nous sommes devenus frères et sœurs. Le sang du Seigneur coule en nous. C'est un lien de sang spirituel. Ce lien de sang me donne un sentiment très spécial. Peu après la naissance de mon fils, mes beaux-parents sont venus nous aider. Bien sûr, ils étaient déjà comme des parents pour moi. Mais quand j'ai compris que nous étions désormais liés par le sang à traverser mon fils, je les ai sentis proches comme mon propre père et mère. C'est ce que je veux dire aujourd'hui, nous tous ici, nous sommes une seule famille, les enfants de Dieu, unis par le sang de Jésus-Christ. Même si nos origines et nos langues différentes, comme moi. Je suis vraiment en connaissance, car vous avez toujours accueilli notre famille chaleureusement, comme si vous le saviez déjà. Je pense que c'est grâce au bon enseignement de notre pasteur Philippe. Maintenant, je vous présente ma famille. Ma femme Soumi, elle est là, derrière l'angle. Et ma fille est Anna. Et j'ai encore un fils, Yann, il dort encore. Et pour finir, je voudrais vous annoncer un concert spécial pour dimanche prochain. C'est un oratorio dramatique composé par ma sœur en Jésus-Christ, Madame Kim. Elle dirigera elle-même cette première. Ce sera un moment pour ressentir l'émotion de la grâce de Dieu qu'elle a profondément médité dans cette période de carême. Je vous invite à ce concert intitulé « La grâce ». Vous trouverez plus de détails sur le panneau affichage. Merci à tous. Merci.
Merci beaucoup. Merci. Et puis Mélina. Alors aussi un sujet de reconnaissance, pas parce que tu nous quittes, parce que oui, elle va nous quitter, mais pour tout ce qui vient après, pour les nouvelles étapes, pour l'appartement. On est reconnaissant pour toi, mais je te laisse la parole.
Alors bonjour à tous. Ça fait quelques temps que je n'étais pas revenue parce que j'ai eu la chance de pouvoir aller en Argentine avec Rosias et c'était un temps qui était béni aussi. Après, j'ai eu la chance d'aller en Alsace pour voir mes nièces et tout ça, donc c'était un autre temps béni aussi. Et on avait vraiment à cœur avec Rosias de pouvoir nous rapprocher de Fribourg, qui est là où je travaille actuellement, parce que je n'ai pas une santé en fer, même si je vous prouve le contraire. ça devenait un peu pesant, et en moins de 3 semaines, ce qui est quand même très très rapide, on a trouvé un appartement, on a signé hier, on a les clés depuis hier, on a commencé à déménager, c'est pour ça qu'il y a ma maman qui est là pour nous aider. Et
en fait, c'est un sujet de joie, mais je vous aime vraiment beaucoup. Donc l'idée de quitter l'église de Mérin et de quitter la ferme de Denise et Raymond où on a pu faire notre chez nous, où on était tellement bien accueillis, on a été tellement soutenus, vous avez été tellement présents dans tous mes problèmes de santé, dans tous nos questionnements. Et vraiment, je suis très très reconnaissante. Je vous remercie vraiment beaucoup du fond du cœur. Et puis si un jour vous passez à Fribourg, notre porte sera ouverte. Après, ça reste un appartement, donc ne venez pas tous en même temps. Ça risque d'être compliqué. Mais voilà, donc c'est des larmes de joie qui coulent. Enfin bon, on va dire kiff kiff. Mais non, merci beaucoup. Merci pour vos prières. Merci de penser à nous à chaque instant. C'est un gros challenge de déménager. Mon premier déménagement, c'est celui qui m'a emmené jusqu'à vous. Et c'est difficile de savoir ce qu'on quitte et de ne pas savoir ce qu'on va trouver derrière. Donc il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de gros changements. Mais je sais qu'avec vous qui nous tenez dans vos prières, tout ira bien. Et parce que le Seigneur nous accompagne et il nous a donné cette chance aussi. Donc on continue à cheminer avec lui. Merci beaucoup.
Merci. Je vais peut-être prier pour toi, pour vous. Seigneur, c'est vrai que dans les transitions de la vie, on perd certaines choses, on en gagne d'autres. La vie est faite ainsi. C'est toujours dur de perdre ce qu'on perd, même si on se réjouit de ce qui est devant et des nouvelles choses qui s'ouvrent devant nous. Merci Seigneur, parce que nous avons l'assurance que tu es avec nous dans toutes ces étapes de vie. Et je prie pour Mélina, pour ce couple, Seigneur, qu'ils puissent voir régulièrement ta main, ton action dans leur vie, dans les petites choses, dans les grandes choses, comme pour cet appartement qui a été rapidement trouvé, Seigneur. On est reconnaissant pour eux et que tu les accompagnes vraiment dans chaque étape de ce qui est là devant eux. Amen. Voilà, je vais m'arrêter là. Il y aurait plein d'autres annonces. Je vous le dis souvent, référez-vous au programme papier, à l'actu Mérin. Parlez entre vous et puis à l'écran aussi. Il y a encore des besoins pour le repas, enfin l'événement avec les jeunes, hein, l'œcuménique. C'est bon ? Magnifique, il n'y a plus de besoin. Il y a aussi les inscriptions pour le repas communautaire. Je pense que vous prenez encore les inscriptions aujourd'hui, les Dubos. Ouais. Donc n'oubliez pas de vous inscrire, il y aura un repas qui est prévu. Voilà, et je laisse la parole pour le mot de la fin.
Merci. Je vous invite à vous lever pour recevoir une bénédiction. J'aimerais vous encourager à reconnaître cette semaine les signes de la présence de Dieu avec vous dans vos journées, avec ces paroles du prophète Ésaïe. Le Seigneur est Dieu depuis toujours et pour toujours. Tu ne sais pas cela ? Tu ne l'as donc pas entendu dire ? Il a créé toute la terre. Il ne manque jamais de force. Il n'est jamais fatigué. Personne ne peut mesurer la profondeur de son intelligence. Il redonne des forces à celui qui en manque. Il rend courage à celui qui est épuisé. Ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils avancent sans s'épuiser. Bonne semaine à chacun et chacune. Et bienvenue pour le café encore.
Que ta gloire.